3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Un programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Educational Comics fut fondé par Max Gaines, ancien éditeur de la compagnie de comics All American Publications, au moment où cette dernière deviendra DC Comics en 1944. Gaines conservera les droits sur la bande dessinée Picture Stories from the Bible et lancera sa nouvelle maison d'édition avec la commercialisation de comics touchant à la science, l'histoire et la Bible, comics qui seront alors distribués dans les écoles et les églises. Cependant, Max Gaines décédera en 1947 dans un accident de bateau, laissant en héritage à son fils William la société de bande dessinée. William lancera en 1949 et 1950 une gamme de nouveaux titres mettant en vedette l'horreur, le suspense, la science-fiction, la fiction militaire ainsi que la fiction policière. Portant maintenant le nom de EC Comics, la nouvelle maison d'édition connaîtra alors le succès grâce à sa nouvelle approche et deviendra un pionnier dans l'établissement de relations avec ses lecteurs grâce à ses lettres à l'éditeur et à son organisation de fans, le National EC Fan Addict Club. Sera donc créée à ce moment les séries anthologiques de comics Tales from the Crypt, The Vault of Horror, The Hunt of Fear, Weird Science et Weird Fantasy, qui aborderont alors dans ces histoires des questionnements politiques et sociaux importants tels que le racisme, la violence, le sexe, la consommation de drogue et le mode de vie américain, le tout avec des illustrations de qualité supérieure et des histoires aux fins surprises qui deviendront alors la marque de commerce de cette compagnie. Présentée par les personnages du Crypt Keeper, du Vault Creeper ou de The Old Witch, les histoires effrayantes de Tales from the Crypt, The Vault of Horror ainsi que The Hunt of Fear deviendront alors la cible d'une audience très médiatisée du Congrès sur la délinquance juvénile associée au monde du comic book qui forcera alors la formation du Comic Code Authority en 1954 dont l'une des règles premières fut qu'aucun titre ne contienne les mots « horror »,« terror » ou « weird » sur sa page couverture. À cause de cette règle, Gaines mettra un terme à la publication de ses trois titres d'horreur le 14 septembre 1954 et se concentrera sur une gamme de titres de bande dessinée plus réalistes, notamment MD et New Directions. Il se devra également de renommer ses bandes dessinées de science-fiction. Cependant, Ces numéros ne portant pas le sceau du Comic Code, les grossistes refuseront alors de vendre ces comics, forçant Gaines à se soumettre à contre-cœur au Comic Code, mais cette tentative de refonte échouera commercialement. Après avoir mené un certain nombre de batailles contre le Comic Code Authority pour tenter de maintenir ses magazines à l'abri de la censure, Gaines n'aura d'autre choix que d'abandonner tous ses titres, à l'exception du magazine Mad, et vendra sa société dans les années 1960 à la même société qui achètera le National Periodical Publications, qui deviendra plus tard DC Comics. Le comic Tales from the Crypt sera alors adapté dans un film du même nom en 1972, tout comme The Vault of Horror en 1973. Mais ce sera vraiment en 1982, avec la création du long-métrage Creepshow, que seront mises en valeur les histoires horrifiantes de cette compagnie de comic book qui marquera l'histoire des États-Unis d'Amérique. Donc, replongez avec moi dans le monde du comic d'horreur des années 40 et 50 et préparez-vous à accueillir dans votre résidence le personnage du Creep, alors que je vous parlerai dans cette émission spéciale de la franchise de Creepshow, franchise qui inclut plus de 3 films, soit ceux de 1982, 1987 et 2006, ainsi qu'une série télé qui débutera sur les ondes de Shudder en septembre 2019.
Welcome to your favorite drive-in theater and a sparkling new season. Watch our screen and local newspapers for all the fine shows coming this way. Show after show will feature the latest hits, the biggest stars for fun-filled, pleasure-packed evenings. Relax, come as you are, and spend an enjoyable night out with the entire family. No parking problems, no babysitting problems. And there are always tasty snacks at our modern refreshment stand.
Thanks, folks. And once again, welcome back.
Visit our concession and see for yourself the delicious treats, drinks, and snacks awaiting you. If you are thirsty, try ice-cold soft drinks or a cup of hot, flavorful coffee. Get something to go with it, like a sizzling and satisfying hot dog or a tasty, tender sandwich. Try one of these delicious treats, and you'll be back at the concession for more before the show is over. The service at our concession is friendly and efficient.
Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go! It's showtime!
Rated X.
Coming soon. Jolting tales of horror. Creepshow. From the author of Carrie, The Shining, and Cujo. And the creator of Night of the Living Dead and Dawn of the Dead, you'll scream at ghastly ghouls, cringe at weird kids, and shiver at the doings of evil doctors.
This is going to be extremely painful, Mr. Verrill.
Creepshow will grab you, grow on you, and give you the creeps.
Well, this is going to be an entirely new experience.
Creepshow, the most fun you'll ever have being scared.
Creepshow, ou Histoire à mourir debout, est un drame fantastique qui a été distribué par les studios Warner Brothers le 12 novembre 1982. Ce film américain d'une durée de 120 minutes a coûté plus de 8 millions de dollars à produire et a amassé plus de 21 millions de dollars au box-office nord-américain. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain George A. Romero, lui qui nous avait donné le film de 1968 « Night of the Living Dead » ainsi que « Knight Rider ». Au poste de producteur, on y retrouve le producteur américain Richard P. Rubenstein, lui qui avait travaillé sur les films « Dawn of the Dead », la version 78, et « Martin ». Et au niveau de la scénarisation, on y retrouve Stephen King, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les scénarios de The Dead Zone en 1983 et Maximum Overdrive. Dans la distribution, on y retrouve les acteurs Al Holbrook, Adrienne Barbeau, Fritz Weaver, Leslie Nielsen, Kerry Nye, E.G. Marshall, Tom Atkins, Ed Harris, Ted Danson et Stephen King. Cinq histoires d'épouvante, mettant notamment en scène un mort-vivant à la recherche de son gâteau d'anniversaire, un fermier attaqué par des plantes, un mari jaloux qui tue à l'aide de la marée, un homme qui se sert d'une étrange créature afin de se débarrasser de son épouse et d'un milliardaire phobique envahi par des insectes. Notre histoire débute donc au milieu des années 1970, après que le jeune metteur en scène américain George Romero vient tout juste de terminer la production de son tout dernier film, soit le drame d'horreur « Martin ». C'est à ce moment que des exécutifs de la compagnie de cinéma Warner Brothers lui suggéreront de rencontrer un écrivain prometteur nommé Stephen King. En effet, cette idée proviendra du fait que « Martin » était un film de vampire et que King venait tout juste d'écrire un nouveau livre sur cette thématique intitulé « Salem's Lot », livre que les exécutifs de la Warner espéraient adapter cinématographiquement avec l'aide de Romero lui-même. À cette époque, Romero ne connaissait pas grand-chose de Stephen King, n'ayant lu que le roman « Carrie ». Les deux hommes passeront alors plus de 3 jours à travailler sur le projet de Salem's Lot et deviendront rapidement de bons amis. Malheureusement, le projet de film ne verra jamais le jour, Salem's Lot étant finalement adapté par le réalisateur Toby Hooper en une mini-série télévisée en 1979. Par la suite, King et Romero travailleront sur une autre adaptation d'une autre œuvre littéraire de King, soit The Stand, mais encore une fois, le projet sera abandonné, Romero et King étant incapables de réduire l'œuvre colossale de 700 pages de l'auteur à un seul long métrage ou encore d'obtenir le financement nécessaire pour monter l'œuvre sous la forme d'un film en 2 parties. Malgré ces échecs, les deux maîtres de l'horreur resteront en contact et chercheront un concept pour un nouveau projet qui pourrait alors obtenir suffisamment de succès au box-office afin d'attirer des investisseurs et ainsi lever les capitaux nécessaires pour la production de l'adaptation de The Stand. Ce sera finalement au Maine, durant l'été 1979, que, lors d'une discussion entre King et Romero et le producteur de Romero, Richard P. Rubenstein, sera suggérée l'idée de produire un film anthologique mettant en scène plusieurs petites histoires d'horreur basées sur de vieux comics d'horreur publiés par EC Comics durant les années 50, une passion qu'avaient en commun Stephen King et George Romero. Emballé, King se mettra alors à l'écriture du scénario, son tout premier en carrière pour le cinéma, dont le premier jet de 142 pages sera remis à Romero après seulement quelques semaines. Un budget de 5 millions de dollars sera d'abord accordé, montant qui, un an plus tard, sera revisé pour atteindre les quelques 8 millions. Ce sera initialement la maison de distribution United Film Distribution qui obtiendra les droits de diffusion du long-métrage prévu. Les segments Father's Day, Something to Tide You Over et They're Creeping Up on You seront des histoires originales de Stephen King écrites spécialement pour ce long métrage, alors que The Lonesome Death of Jordy Verrill sera basé sur sa nouvelle Weeds, qui fut publiée pour la première fois dans le numéro de mai 1976 du magazine Cavalier. Et, pour The Crate, King adaptera une autre de ses nouvelles portant le même titre, qui, elle, fut publiée pour la toute première fois en juillet 1979 dans le magazine pour adultes Gallery. Rubenstein et Romero choisiront des acteurs et des actrices connus et surtout de talent afin que leurs personnages soient rapidement établis dans les contraintes de temps des courtes histoires, ainsi que pour augmenter la valeur marchande du projet. Ted Danson, Adrienne Barbeau, Leslie Nielsen, Tom Atkins, Hal Holbrook, Fritz Weaver, E.G. Marshall, Viveka Linford, Richard Gere et Ned Beatty, qui fera la voix de Bob Bean dans le segment « They're Creeping Up on You », seront alors choisis. S'ajoutera à cela l'acteur Ed Harris, avec qui Romero avait travaillé sur son précédent film « Knight Rider », Galen Ross, qui avait tourné avec le réalisateur dans le film « Dawn of the Dead » en 1978 et dont il sera question ici de sa toute dernière apparition à l'écran de sa carrière, car l'actrice deviendra par la suite réalisatrice et productrice, et finalement, Stephen King lui-même, qui fera ses débuts à titre d'acteur au cinéma dans le rôle de Jordy Verrill. Pour compléter le tout, Joe King, le fils de Stephen King, interprétera le jeune garçon du segment du début et de la fin du long-métrage. Joe King est aujourd'hui un auteur de fiction d'horreur populaire qui utilise désormais le pseudonyme de Joe Hill. Écrivant non seulement des livres et des comic books, mais également des scénarios pour la télévision et le cinéma. Le jeune King décida de changer son nom d'écrivain car il craignait que les éditeurs n'impriment ce qu'il écrivait que pour tirer profit de son nom de famille et non pour son talent d'auteur. Tom Savini sera par la suite choisi par Romero pour s'occuper des effets spéciaux ainsi que des maquillages. Savini ayant travaillé avec Romero sur la version de 1978 de Dawn of the Dead. De plus, Savini, qui avait eu un des rôles principaux à titre d'acteur dans le film de George Romero, Knight Rider, se verra offrir ici une petite apparition en tant qu'éboueur dans le segment d'épilogue du long-métrage. Conformément à la tradition de Romero, la majeure partie des séquences seront tournées tout au long de 1981 dans et autour de la région de Pittsburgh, la majeure partie du film ayant été tournée dans une école vide pour filles située à l'extérieur de Greensburg, en Pennsylvanie. L'école sera d'ailleurs transformée en studio de cinéma pour y tourner les épisodes de Lonesome Death of Jordy Verrill et They're Creeping Up on You, ainsi que le prologue et l'épilogue. Plusieurs lieux supplémentaires seront également utilisés pour le tournage, soit Beckerley Township, Monroeville, Philadelphie, ainsi qu'à l'Université Carnegie Mellon. La séquence du party dans l'épisode de Crave sera tournée dans le jardin de l'ancienne résidence de Romero sur Amberson Avenue à Shadyside en Pennsylvanie. Un manoir de la banlieue de Pittsburgh à Fox Chapel en Pennsylvanie sera également utilisé, tout comme Island Beach dans le canton de Berkeley dans le New Jersey. Stephen King était continuellement présent sur le plateau de tournage afin de réécrire les dialogues et les scènes afin de les rendre plus adaptés à la censure télévisée. Étant très superstitieux, l'auteur portait toujours sur lui une figurine du personnage de Greedo de Star Wars 4 A New Hope lorsqu'il se trouvait sur le plateau de tournage afin de porter chance à la production. Lorsque viendra le temps d'interpréter son premier rôle au grand écran, l'auteur à succès aura comme instruction de la part de Romero d'agir comme le coyote dans Roadrunner lorsque celui-ci se rend compte qu'il va tomber d'une falaise. Cependant, lors du tournage de ces séquences, King aura une réaction allergique au maquillage, ce qui le forcera à prendre des injections et des médications afin de rendre le travail supportable. Romero décidera d'utiliser un éclairage dramatique, des couleurs vives, une composition de cadrage vers la gauche ou la droite pour rendre la ligne d'horizon inégale, ainsi que des effets spéciaux imitant les styles de bande dessinée, tout ça afin de bien reproduire l'aspect des œuvres DC Comics des années 1950. Afin de sauver sur le budget de production, Romero utilisera une équipe de production dont les membres ne seront pas syndiqués, ce qui amènera à certaines manifestations de protestants qui ralentiront quelque peu le tournage. Pour le segment de The Crate, le concepteur des effets spéciaux Tom Savini créera sa toute première créature entièrement animatronique, demandant même conseil avec le spécialiste des effets spéciaux mécaniques et pratiques Rob Button, qui travaillait à ce moment-là sur le film de John Carpenter, The Thing. La création du monstre prendra plus de 5 mois. Impressionné par le résultat final, ce sera Romero lui-même qui donnera le nom de Fluffy à la dite créature. Pour les décors de The Lonesome Death of Jordy Verrill, ceux-ci nécessiteront 2 semaines de construction, incluant la construction d'un ruisseau alimenté par un réservoir d'eau de plus de 500 000 gallons. Pour le segment « They're creeping up on you », plus de 20 000 cafards vivants seront utilisés pour le segment. Ce seront les entomologistes David Brody et Raymond Mendez du Musée américain d'histoire naturelle de la ville de New York qui seront chargés de sélectionner plus de 3 espèces spécifiques. Ces insectes seront la partie la plus dispendieuse du budget de la production. Afin de compléter le visuel, Savini ajoutera des noix et des raisins secs à travers ceux-ci afin de donner l'impression que la pièce était presque remplie de cafards. Mais tout n'était pas sombre sur le plateau de tournage. En effet, lors de la production du segment « Something to Tide You Over », l'acteur Leslie Nielsen divertissait les membres de l'équipe de production avec une machine à péter qu'il traînait dans ses poches de pantalon, utilisant l'engin pendant les répétitions et juste avant que le réalisateur ne prononce le mot « action », faisant rire l'acteur Ted Danson et l'équipe de tournage. D'ailleurs, pendant le tournage de ses séquences avec son maquillage de zombie aux algues pourries, Ted Danson amènera sa jeune fille de 2 ans, Kate, sur le plateau de tournage. Ne voulant pas la traumatiser, il cherchera à l'éviter à tout prix durant la production de ses séquences, mais cette dernière le trouvera tout de même et le reconnaîtra aussitôt sans même être effrayé. Pour sa séquence durant laquelle Danson fut enterré dans le sable jusqu'aux épaules sur une plage, ce dernier sera effectivement installé dans un trou, sa tête dépassant d'une planche recouverte de sable. Lorsque sa tête sera totalement sous l'eau, un petit aquarium sera alors construit. Après avoir enfilé une combinaison, Danson se trouvait alors à l'intérieur, totalement submergé, et fera sa scène. Un technicien descendra au besoin un ventilateur de réservoir d'oxygène afin de lui permettre de respirer entre les scènes. De plus, afin de s'assurer que tout allait bien aller, si un accident devait survenir, Tom Savini était situé à proximité avec une masse afin de briser le dit aquarium. Une sorte de structure composée de bois avec du faux sable sera également installée autour du cou de Ted Danson afin de donner l'impression que sa tête était véritablement enfouie dans le sable sous l'eau. Anecdote amusante, un cendrier en marbre, qui jouera un rôle important dans le segment Father's Day, sera également présent dans tous les autres segments du film, apparaissant à côté de la caisse du département des météores dans le segment « The Lonesome Death of Jordy Verrill », sur la table de nuit à côté du lit de Richard dans le segment « Something to Tide You Over », sur le bureau quand Henry écrit la lettre à Wilma dans « The Crate », servira de porte-savon quand Hobson Pratt se lave les mains dans « They're Creeping Up on You » et finalement, dans la séquence finale, soit sur le bureau de Billy lorsque ce dernier commence à poignarder une poupée voodoo. Ce sera sur ce plateau de tournage que le concepteur d'effets spéciaux, réalisateur et producteur Greg Nicotero fera la rencontre du réalisateur George Romero. En effet, Nicotero n'avait que 16 ans lorsqu'il rencontrera son metteur en scène favori, alors que ce dernier avait eu la gentillesse de l'inviter dans son bureau. Ainsi, pendant le tournage de Creepshow, il fut de nouveau invité sur le plateau en tant que fan d'horreur, et c'est à ce moment qu'il fera la rencontre du gourou du maquillage d'horreur, soit Tom Savini. Suite à cette rencontre, Nicotero décidera de devenir concepteur d'effets spéciaux comme son mentor et commencera sa carrière à Hollywood, travaillant dans l'équipe de Savini sur le film Day of the Dead 3 ans plus tard. Avec le temps, Nicotero créera sa propre compagnie d'effets spéciaux et s'occupera de tous les effets et du maquillage des zombies sur la populaire série télévisée de AMC, The Walking Dead. D'ailleurs, lorsque Nicotero produira en 2019 la série télé Creepshow, il ramènera sur le plateau de tournage le fameux cendrier en marbre utilisé sur le film de 1982, celui-ci apparaissant dans le tout premier épisode de cette toute nouvelle série. Le tournage de Creepshow se terminera juste avant les fêtes de Noël en 1981, avec une sortie prévue pour l'été 1982. Ce sera le concepteur musical John Harrison, qui deviendra lui-même plus tard réalisateur, qui fut embauché pour composer la musique du long-métrage d'horreur. Il s'agira ici de la deuxième musique de film d'Harrison, ce dernier ayant fait ses débuts 3 ans auparavant sur le film FX. Creepshow sera projeté pour la première fois sur grand écran en France lors du Festival de Cannes en mai 1982. Espérant se trouver un distributeur important durant le festival, la compagnie de production Laurel Entertainment sera contrainte de reporter un paiement de plus de 545 000 $ pour rembourser leur emprunt. Par chance pour eux, ce sera finalement les studios Warner Brothers qui remporteront les droits de diffusion nationale du film à la suite d'une guerre d'enchères qui inclura Universal Pictures et Paramount Pictures. Warner Bros. Essayera alors une stratégie de sortie inhabituelle pour le film qui a finalement connu un énorme succès. Ils ont réservé plusieurs cinémas dans la région de Boston en juillet 1982 et ont vu le film faire d'excellentes ventes grâce à un fort bouche à oreille, puis ont mis fin à la diffusion limitée. Ils ont ensuite déplacé la sortie du film prévue début octobre au début novembre parce qu'ils concluront que le principal film d'horreur rival de cette période, soit Halloween 3 Season of the Witch, ouvrirait avec force au box-office, mais que le film de Universal Pictures disparaîtrait rapidement des salles de cinéma. Sortant le 22 octobre 1982, Halloween 3 amassera plus de 6,3 millions de $ à son premier week-end, mais chutera rapidement par la suite, permettant alors au studio Warner Bros. De sortir en salle Creepshow à la mi-novembre, sans grande compétition au niveau de l'horreur. Le film sera donc projeté sur plus de 1127 salles et rapportera plus de 5,9 millions de $ durant son tout premier week-end, se classant numéro 1 au box-office américain, déclassant ainsi le long-métrage de Sylvester Stallone, First Blood, de la tête du classement. À cette époque, Romero décidera de conserver les droits cinématographiques de Creepshow, espérant réaliser une suite avec son producteur Richard Rubenstein, suite au succès financier du long-métrage. Les deux hommes chercheront alors à produire une série télé, mais ne pourront le faire ainsi en raison de droits légaux. Au lieu de cela, les deux hommes produiront une autre série télévisée qui s'intitulera Tales from the Dark Side, une sorte d'hybride entre Twilight Zone et Creepshow qui présentera chaque semaine des histoires uniques, généralement avec des monstres et des fins à rebondissement. La série obtiendra un certain succès, ce qui lui permettra alors de durer plus de 4 saisons. Cela ouvrira par la suite la porte à plusieurs autres séries d'horreur anthologiques à la télévision et sur le câble, notamment Monsters, The Hitchhiker, Twilight Zone, la série de 1986, Alfred Hitchcock Presents, ainsi que Tales from the Crypt. Suite à la sortie du long-métrage de 1982, Stephen King créera une véritable bande dessinée telle qu'elle apparaît dans le film lui-même. Publié par Penguin Imprint Plume en juillet 1982, Creepshow the Comic inclura les illustrations de l'artiste Bernie Wrightson. Ce sera l'artiste Jack Kamen qui sera responsable de la conception de la page couverture de l'adaptation de la bande dessinée qui inclura les 5 histoires de King écrites pour le film. Mais, avec le temps, plusieurs célébrités ayant participé à Creepshow nous quitteront. Hal Holbrook décédera à sa résidence de Beverly Hills le 23 janvier 2021, à l'âge de 95 ans. Quant à l'acteur Fritz Weaver, celui-ci décédera à sa résidence de New York le 26 novembre 2016, à l'âge de 90 ans. Le 28 novembre 2010, ce sera le comédien Leslie Nielsen qui décédera dans son sommeil des suites d'une pneumonie, à l'âge de 84 ans. Pour l'acteur E.G. Marshall, ce dernier mourra des suites d'un cancer des poumons à sa résidence de Bedford à New York le 24 août 1998 à l'âge de 84 ans. L'actrice Carrie Nye mourra également des suites d'un cancer du poumon le 14 juillet 2006 à l'âge de 69 ans à sa résidence de Manhattan. Viveka Linford, quant à elle, décédera des suites de complications liées à sa maladie de la polyarthrite rhumatoïde à l'âge de 74 ans. Finalement, le réalisateur, scénariste et producteur George Andrew Romero Jr. perdra la vie le 16 juillet 2017 des suites d'un cancer des poumons. Il était âgé de 77 ans. Du côté des points positifs, eh bien, Creepshow est un véritable hommage aux bandes dessinées populaires de EC Comics qui est fait ici avec amour par deux passionnés du genre qui sont devenus avec le temps des spécialistes du fantastique et de l'horreur. Ici, la réalisation de Romero est sans contredit la meilleure de sa carrière, s'amusant à mélanger décors en carton et éclairage vif avec de véritables acteurs, le tout donnant réellement l'impression de regarder une bande dessinée sur le grand écran. D'ailleurs, ce style BD est présent partout, tant dans la narration, dans le concept loufoque du traitement des histoires, et de cette outrance grotesque qui saura amuser les amateurs de ce genre de spectacle. Ce film anthologique sort de l'ordinaire et est unique en son genre grâce à son visuel, son scénario, son excellente distribution, dotée de vedettes surprises et de talents, d'une trame sonore musicale sublime et hypnotisante, ainsi qu'à des effets spéciaux de haute qualité du concepteur Tom Savini. King et Romero en profitent également pour rendre hommage ici à des classiques cinématographiques tels que The Blob et The Thing from Another World, et n'ont pas peur d'ajouter une touche de ridicule et d'humour noir qui nous font sourire entre les moments de tension. La direction photo ici est également excellente, tout comme certains effets qui sont impressionnants, surtout lorsque l'on voit le budget peu élevé de la production. Mais du côté des points négatifs, eh bien, tout n'est pas de valeur égale dans Creepshow, certaines histoires étant moins bonnes que d'autres. C'est d'ailleurs le segment The Lonesome Death of Jordy Verrill qui est sans contredit le segment le plus faible du long-métrage, et ce, malgré l'interprétation amusante de Stephen King. La mise en scène de Romero est également inégale par moments, le metteur en scène ayant de la difficulté à instaurer un bon rythme, faisant en sorte que par moments, le film possède quelques longueurs. Par chance, l'humour noir de certains segments et le jeu de qualité des acteurs présents permettent au film anthologique d'offrir un climat d'ensemble fort appréciable. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur John Harrison qui réalise ici la musique de Creepshow, lui qui avait travaillé sur Day of the Dead, la version de 1985, Tales from the Dark Side, la version de 1990 et Effect. Creepshow était disponible en vinyle et en cassette 4 pistes en 1982 sous l'étiquette Varese Saraband, puis sortira en CD le 21 octobre 2003 sous l'étiquette La La Land Records et aura par la suite un Limited Edition sous l'étiquette de Waxwork Records qui sortira le 21 avril 2014 pour finalement nous donner un Expanded Edition qui a été limité seulement à 3000 unités. Encore une fois, ça a été distribué par les étiquettes La La Land Records le 27 mars 2014.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
Who are you?
You know it's okay to be scared, right?
You gonna tell me what this is all about?
Yes. Yes, absolutely.
Can
killed before, you'll kill again.
I see what you did there.
There are things in the corners of this world.
Help me!
They'll drive you insane.
A new generation of horror has arisen from the dead.
The way it's supposed to be.
Creepshow, the most fun you'll ever have being scared.
We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully and come back soon.
We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
Maybe you don't get out much.
Oh, this is crazy.
Come on, it's not so bad once you're in.
Or maybe you just have other things on your mind. But few like movies that will keep you stuck to your chair. Stephen King and George Romero have conjured up an all-new Creepshow just for you. Creepshow 2.
I mean, what is it?
I'm gonna swim for it right now.
So don't just sit there. Walk.
One more step and blam!
Run.
That's impossible!
Swim if you have to.
I got you!
But whatever you do, don't take your time. Cause the scares come twice as quickly in...
I be you!
Creepshow 2.
Creepshow 2 est un drame fantastique qui a été distribué par les studios New World Pictures le 1er mai 1987. Ce film américain d'une durée de 89 minutes a coûté plus de 3,5 millions de dollars à produire et a amassé plus de 14 millions de dollars sur le continent nord-américain. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Michael Gornick, lui qui avait réalisé des épisodes télé pour la série Monsters et King's Golden Tales. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve David Ball, lui qui avait produit les films Black Plague, Alone et The Last Seduction numéro 2. Et finalement, au poste de scénarisation, on y retrouve le scénariste américain George Romero, lui qui avait écrit les scénarios de The Crazies, la version 73, Bruiser et Martin. Dans la distribution, on y retrouve Lois Childs, George Kennedy, Dorothy Lamour, Tom Savini, David Holbrook, Paul Satterfield et Tom Wright. Un jeune garçon est poursuivi par un groupe de durs de son école alors que défile de son comic book préféré trois histoires fantastiques mettant en vedette la vengeance exercée par la statue de bois d'un chef indien sur les voyous qui ont assassiné de paisibles marchands, d'un quatuor d'adolescents venus nager dans un lac isolé où se trouve une masse visqueuse carnivore, et finalement, les ennuis d'une femme adultère poursuivie par le fantôme d'un autostoppeur qu'elle a accidentellement frappé. Après le film Creepshow, la maison de production Laurel Entertainment développera un certain nombre de projets anthologiques d'horreur dans le style, dont deux séries télévisées, soit Tales from the Dark Side, qui sera diffusée en syndication de 1984 jusqu'en 1988, et la télésérie Monsters, qui, elle, sera diffusée également en syndication de 1988 jusqu'en 1991. Cependant, le réalisateur George Romero quittera la compagnie Laurel Entertainment en 1984 pour poursuivre ses propres projets, même si ce dernier continuera son partenariat avec la maison de production pour Tales from the Dark Side. Une suite de Creepshow sera alors envisagée par Romero et son producteur Richard Rubenstein, mais lorsque les studios Warner Bros. Décideront de ne pas financer ni distribuer le long-métrage, la compagnie Laurel Entertainment choisira alors de produire elle-même ce nouveau projet de manière indépendante. Cette décision surviendra alors que Romero, qui avait décidé ici d'écrire lui-même le scénario en se basant sur des histoires et un traitement de l'auteur Stephen King, venait tout juste d'en terminer la deuxième ébauche. Une sortie en salle sera alors prévue pour l'été 1984, mais à cause du retrait de Warner Bros., le projet se retrouvera quelque peu sur la glace. Il faudra alors attendre à l'été 1986 lorsque Rubenstein prendra une entente avec la maison de distribution New World Pictures qui acceptera alors de coproduire et de distribuer le nouveau film anthologique. Romero prendra alors la décision de céder son fauteuil de réalisateur, laissant la place au directeur de la photographie du premier volet, Michael Gornick, qui avait également travaillé avec Romero sur les films Martin en 77, Dawn of the Dead en 78, Knight Rider en 81 et finalement Day of the Dead en 1985. À l'origine, Creepshow 2 devait compter 5 histoires comme le premier film, mais 2 segments devront être supprimés du scénario car les exécutifs de la New World Pictures s'entendront pour un budget total de moins de 3,5 millions, soit moins de la moitié que le budget original du film de 82. Les 2 segments supprimés seront alors Pinfall et Cat from Hell. Pinfall était une histoire non publiée de King qui était destinée à l'origine comme le second segment, tout juste après Old Chief Woodenhead. L'histoire suivait 2 équipes du jeu de quilles, rivales, qui découvrent que le propriétaire récemment décédé de l'établissement où ils jouaient leur partie habituelle avait mis de côté 5 millions de dollars pour l'équipe ayant obtenu le score le plus élevé lors de leur prochain match. Les membres de l'une des 2 équipes s'assureront de réclamer leur prix en orchestrant un accident de voiture qui tuera les membres de l'équipe adverse, ces derniers revenant alors sous forme de zombies vengeurs. Pour le segment « Cat from Hell », basé sur une courte nouvelle de King, qui fut publiée pour la première fois en 1977, l'on suivait un tueur à gages engagé par un riche mania pharmaceutique pour assassiner une cible inhabituelle, soit un chat. Cat from Hell sera plus tard réalisé à l'écran dans le cadre du drame fantastique anthologique Tales from the Dark Side, The Movie, réalisé par le metteur en scène John Harrison et distribué en salle en 1990, film qui sera considéré par plusieurs comme étant le véritable Creepshow 3. Sera conservé dans le film les histoires The Raft, d'après une histoire de King qui fut publiée pour la première fois en novembre 1982 dans le magazine pour adultes Gallery, et également inclus dans la collection d'anthologies de l'auteur écrite en 1985 et intitulée Skeleton Crew. Dans le film, nous y retrouverons également les histoires de The Hitchhiker et Old Chief Woodenhead, qui, elles, étaient 2 histoires inédites de l'auteur populaire. Au niveau de la distribution, George Kennedy fera équipe avec l'actrice Dorothy Lamour, dont ce sera ici la première apparition au cinéma en 11 ans, mais également sa dernière, l'actrice décédant le 22 septembre 1996 à l'âge de 81 ans. Stephen King fera également une apparition dans le segment de Hitchhiker. D'ailleurs, pour ce segment, le rôle d'Annie Lansing sera initialement confié à l'actrice Barbara Eden, qui avait interprété le personnage de Jeannie de 1965 jusqu'en 1970. Mais cette dernière devra quitter la production d'urgence durant les premiers jours de tournage afin de s'occuper de sa mère, tombée soudainement malade. Elle sera alors remplacée par l'actrice Lois Childs, que l'on avait vue en 1979 dans le film de James Bond, Moonraker. Le maquilleur Ed French devait initialement interpréter le rôle du Creep, mais ce dernier quitta le projet suite à une mésentente avec le réalisateur Michael Gornick durant le tournage du segment The Raft. En effet, lors du tournage, la créature mécanique se brisera et, au lieu de demander conseil à son technicien en effet visuel, soit French, Gornick se tournera vers le concepteur des effets spéciaux Howard Berger pour obtenir des conseils, ce qui fâchera French, qui quittera alors la production, laissant la place à Berger et Greg Nicotero le soin de terminer les effets spéciaux restants du film. Donc, suite au départ de French, ce sera finalement Tom Savini, revenu sur la production à titre de consultant pour la réalisation des effets spéciaux, qui obtiendra alors le rôle du Creep lorsque ce dernier ne sera pas réalisé en animation 2D. Ce sera d'ailleurs le comédien Joe Silver qui prêtera sa voix au personnage. À souligner également la présence de l'acteur David Holbrook dans le segment Old Chief Woodenhead, fils de l'acteur Hal Holbrook, qui eut un rôle dans le segment The Crate dans le film original de 1982. Creepshow 2 sera également la toute première expérience cinématographique des acteurs Holt McCallany, Paul Satterfield et Don Harvey. Le tournage débutera le 15 septembre 1986 et se déroulera à Humboldt, Prescott et Tescott en Arizona, Bangor, Brewer et Dexter dans le Maine, ainsi que dans l'Utah. Au moment où le tournage débutera, la production était déjà 10 jours en retard en raison de fortes pluies inattendues en Arizona. Durant le tournage du segment The Raft, l'acteur Daniel Beer passera proche de mourir d'hypothermie à cause de l'eau très froide du lac où furent filmées toutes les scènes. Alors que l'équipe voulait qu'il continue à travailler, le réalisateur Michael Gornick l'a amené à l'hôpital, craignant que l'acteur ne quitte le plateau et la production s'il le forçait à continuer à travailler dans de telles conditions. Après une convalescence complète, l'acteur réussira à terminer toutes ses séquences. Après un tournage difficile, le film ira en post-production. Pour la musique, ce sera les compositeurs Les Reed et le légendaire claviériste Rick Wakeman du groupe rock progressif anglais Yes qui furent choisis. Le résultat final sera un mix entre un style de musique orchestrale et de musique électronique. Creepshow 2 sortira en salle le 1er mai 1987 et amassera plus de 3,6 millions de dollars durant son week-end d'ouverture. Au final, les résultats financiers seront bien en deçà de l'original de 1982, tout comme la critique, tant au niveau journalistique que des spectateurs. À l'origine, Romero et Rubenstein avaient des plans pour un troisième film qui aurait suivi directement le deuxième. Ce troisième volet aurait été un film d'animation 2D, le tout entouré par de véritables images, ce qui aurait été en quelque sorte un miroir de ce qu'avait été le film de 1982. Romero avait toujours, à ce moment, l'idée de rester producteur et scénariste. Cependant, les plans pour ce troisième long-métrage seront abandonnés, ce projet devenant par la suite le film « Tales from the Dark Side » de Movie. En 1988, Rubenstein et Aaron Spelling fusionneront leur société de production de Laurel Entertainment et Aaron Spelling Productions en tant que filiale d'une nouvelle société publique, Spelling Entertainment Incorporated. La fusion sera finalisée le 1er mars 1989, Rubenstein restant à la tête de la division Laurel Entertainment. En 2003, la compagnie Taurus Entertainment fera l'acquisition des droits cinématographiques des propriétés Day of the Dead et Creepshow pour une somme d'argent décente et commencera alors à exploiter la popularité de ces deux franchises en produisant une suite au film de 1985, Day of the Dead. Intitulé Day of the Dead 2 Contagion, le long-métrage d'horreur sera alors très mal reçu par les critiques et les fans. Malgré cela, sera alors prise la décision de faire un Creepshow 3. Anna Clavelle, co-réalisatrice de Day of the Dead 2, et James Glenn Dudelson seront embauchés à titre de metteur en scène, scénariste et producteur. Avec un budget de plus de 3,5 millions de dollars, ces deux personnes, qui rêvaient depuis plus de 5 ans de faire un nouveau volet de la franchise, prendront la décision de demander au concepteur des effets spéciaux Greg McDougall, qui avait également travaillé sur la version de War of the Worlds du réalisateur Steven Spielberg, de s'occuper des maquillages du nouveau long-métrage. Au niveau de la distribution, Chris Allen, A.G. Bowen, Camille Lacey, Emmett McGuire et Stephanie Petty interpréteront les personnages principaux des 5 histoires d'horreur de ce 3e long-métrage, soit Alice, The Radio, Call Girl, The Professor's Wife et Haunted Dog. Dans le segment Call Girl, la femme sans-abri sera interprétée par l'actrice Ellen Dietz, qui fut le visage du démon Pazuzu, qui apparut dans le film de 1973 de William Friedkin, The Exorcist. Contrairement aux 2 films précédents de la franchise, les segments animés de Creepshow 3 seront réalisés à l'aide de l'animation par informatique au lieu de la traditionnelle animation 2D, et le film ne possédera aucune référence aux comics de EC Comics. De plus, ni King ni Romero ne seront consultés durant l'écriture du scénario. Le tournage aura lieu dans les studios de la maison de production Universal Studios ainsi qu'au Universal City Plaza en Californie. Une fois terminé, Creepshow 3 sera remonté à quelques reprises avant que sa version finale n'ait sa première à Bristol, à Rhode Island, aux États-Unis, le 24 avril 2006, soit presque 19 ans après la diffusion en salle de Creepshow 2. Le long-métrage sera fort mal accueilli par les critiques journalistiques ainsi que par les fans, mettant un terme à tout autre projet de suite. Par la suite, Taurus Entertainment permettra au producteur Jace Hall de la compagnie de production HD Films, une société de Burbank en Californie, de produire une web-série intitulée Creepshow Raw, qui sera basée sur le film original. Producteur de jeux populaires inspirés de l'horreur comme Condemned et Fear, le plan de Hall était de poursuivre la franchise sous la forme d'une série en ligne composée de courts-métrages, la première saison devant être composée de plus de 10 épisodes. L'épisode pilote, réalisé par Wilmer Valderrama et mettant en vedette l'acteur Michael Madsen, sera intitulé Insomnia et sera diffusé le 30 octobre 2009, juste à temps pour l'Halloween, sur le site de jeu IGN. Dans cet épisode, Madsen interprète le rôle d'un beau-père ivre qui obtient ce qu'il mérite grâce à un monstre vivant dans le placard de son beau-fils. Peu de temps après la diffusion du film de 8 minutes, la série disparaîtra rapidement et aucune autre information ne sera fournie sur les épisodes suivants. Si des scénarios furent écrits, aucun d'entre eux n'entrera en production par la suite et la web-série sera totalement abandonnée, une décision qui sera forcée par le fait que la compagnie Taurus Entertainment ne désirait pas continuer avec Creepshow Raw. Il faudra donc attendre en juillet 2018 avant que ne soit annoncée une nouvelle série télévisée qui, elle, sera intitulée Creepshow et qui sera alors produite par la compagnie Taurus Entertainment Company en association avec la compagnie Striker Entertainment. Le concepteur des effets spéciaux Greg Nicotero reviendra dans l'univers de la franchise en tant que producteur et réalisateur. Une entente sera alors prise avec le poste de streaming Shudder pour diffuser le programme sur son service. En avril 2019, plusieurs acteurs seront annoncés, dont Adrienne Barbeau, Giancarlo Esposito, Tobin Bell, David Arquette, Tricia Helfer, Dana Gould et Jeffrey Combs. De plus, contrairement au film, la série Creepshow mettra en vedette plusieurs réalisateurs au lieu d'un seul. Les directeurs embauchés seront David Bruckner, Roxanne Benjamin, Rob Schrab, John Harrison, Greg Nicotero et Tom Savini. Chaque épisode comprendra 2 histoires d'horreur et l'épisode pilote sera alors diffusé en septembre 2019. Tourné principalement à Atlanta, en Géorgie, ainsi qu'à Toronto, au Canada, la série sera alors rapidement renouvelée pour plusieurs autres saisons. En dehors de la télévision et du cinéma, Creepshow se verra adapté également en livre. En effet, Scholastic Book publiera Creepshow de Taker, un livre qui inclura 2 nouvelles inspirées de la série télévisée et écrites par Haley Cooper. Un autre livre, intitulé Creepshow de Cursed, également écrit par Haley Cooper, sera également publié. Le 3 août 2019, Universal Park and Resort annoncera que Creepshow serait présent au Halloween Horror Night présenté exclusivement dans son parc à thème Universal Studios Hollywood. Le labyrinthe présentait trois segments du film de 1982, soit Father's Day, The Crate et They're Creeping Up on You, ainsi que deux autres de la nouvelle série télévisée de Shudder, soit Grey Matter et Bad Wolf Dawn. En 2022, Image Comics a commencé à publier une bande dessinée Creepshow qui propose de nouvelles histoires originales plutôt que des versions illustrées des épisodes de la série télé. Du côté des points positifs, eh bien, Creepshow 2 se démarque principalement par ses trois histoires morbides dont le rythme est beaucoup plus dynamique ici que le film original. Les effets spéciaux sont de très bonne qualité, tout spécialement la statue indienne qui prend vie dans le premier segment et surtout cette créature boueuse carnivore qui s'attaque à ce groupe de jeunes dans le second segment. La distribution est, encore ici, assez bonne et l'ensemble de ce long métrage ne manque pas d'un certain savoir-faire sur le plan technique. Mais, du côté des points faibles, Creepshow 2 est définitivement moins bon que son prédécesseur, le réalisateur ayant pris la décision de se débarrasser de ses effets visuels qui donnaient le charme au film de 1982. De plus, alors que le premier film était réellement un film fait pour un auditoire plus âgé, Creepshow 2 est un véritable film d'adolescent avec un style de musique totalement différent, un traitement beaucoup plus simpliste des histoires et surtout une animation 2D beaucoup plus présente ici que dans le volet précédent. La mise en scène fait ici beaucoup plus télévision que cinéma, le visuel étant beaucoup moins recherché que le précédent film, ce qui est surprenant, surtout d'un directeur de la photographie devenu réalisateur. Le scénario est fort inégal et les dialogues sont quelque peu simplistes, mais cela n'enlève tout de même pas un certain charme à ce nouveau volet. Cependant, la chimie King-Romero nous manque grandement ici. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur britannique Les Reed, lui qui avait travaillé sur George et Mildred, The Bush Baby et Parting Shot, qui s'associe ici avec le compositeur britannique Rick Wakeman, qui lui a travaillé sur les films The Burning, She, Crimes of Passion et Bullet to Pigeon. La trame sonore a été distribuée en vinyle par l'étiquette Waxwork Record en 2014 dans une édition de collectionneur qui inclut deux vinyles à l'intérieur. Pour Creepshow 3 ainsi que la série télé, il n'existe présentement aucune trame sonore disponible sur le marché. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Creepshow 4. Moi, j'y vais avec une cote 3. Je trouve que le film a très bien vieilli. Et du côté technique, ce film-là est vraiment original. Quelque chose qui n'a jamais et qui sera probablement jamais plus imité au cinéma. Au niveau de l'âge et du contenu, le film était coté 18 ans à l'époque. Aujourd'hui, il est coté 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour quelques séquences de violence et un langage vulgaire. Du côté de Creepshow 2, eh bien, le film est coté 5 par Mediafilm. J'y vais également avec une cote 5. Du côté de l'âge et du contenu, le film est coté 13 ans indicatif. J'y vais avec également une cote 14 ans pour de la violence et un langage vulgaire. Du côté de Creepshow 3, j'y vais avec une cote 6 et un âge de 14 ans à cause de violence et de langage vulgaire. Les points positifs de Creepshow 3, bien, peut-être le point le plus intéressant de ce film-là est sans contredit le fait que chacun des personnages de chacune des histoires vont à un moment ou à un autre dans le film se croiser, ce qui sert principalement de lien entre toutes les histoires de ce troisième volet. On peut voir certains hommages au premier film, la deuxième histoire possédant un certain style qui nous rappelle le film de 82, alors que la troisième histoire possède un humour et des cadrages de travers qui ont fait le charme de Creepshow. Et finalement, ce troisième volet, bien qu'il soit définitivement plus faible de la franchise, se laisse supporter plus l'histoire du long-métrage avance. Mais du côté des points négatifs, eh bien, pour le reste, Creepshow 3 est une véritable déception, une œuvre qui nous donne l'impression d'avoir été réalisée avec les moyens du bord et dont le scénario aurait gagné à être beaucoup plus retravaillé. L'animation est de très basse qualité, alors que la réalisation est ici monotone et bâclée, sombrant par moments dans l'amateurisme le plus complet. Même la distribution par moments est horrible ici. Le long métrage ne possède aucune vie propre, ce qui pourrait rapidement lasser le spectateur qui se demande à quel genre de spectacle on assiste ici, surtout après la qualité des deux premiers longs métrages. Les histoires sont sans grand intérêt ici, le développement étant facile et simpliste avec une fin abrupte qui laissera sans contredit le spectateur sur sa faim. Du côté de la série télé, moi j'y vais avec une cote 4, encore là avec un âge de 14 ans pour violence et langage vulgaire. Un bel hommage au film de 82, Nicotero est sans contredit la bougie d'allumage de cette série qui respecte son produit d'origine. Les histoires sont croquantes et le visuel est original, reprenant à quelques reprises le visuel et le narratif qui fit les beaux jours de cette franchise. De plus, la distribution est surprenante. On peut sentir que tout le monde s'amuse sur la production de cette série télé. Mais, du côté des points négatifs, les histoires sont quelque peu inégales, certaines étant originales et excellentes, alors que d'autres auraient gagné à être mieux travaillées. Alors que la réalisation est tout de même excellente, certains réalisateurs n'arrivent pas à nous donner un spectacle de qualité, surtout durant la deuxième saison de la série, qui demeure sans contredit la plus faible à date. Demeure tout de même que Creepshow, la série, est un produit parfait pour les amateurs de cette franchise. Au niveau de sa disponibilité en DVD et en Blu-ray, le premier film est disponible en français et en anglais, que ce soit en DVD ou en Blu-ray. Vous avez l'édition régulière et l'édition du collectionneur. Même chose pour le film Creepshow 2 qui est disponible en DVD et en Blu-ray. Et vous avez le coffret 3 films qui inclut bien sûr Creepshow 1, 2 et 3 qui est disponible en DVD uniquement. Donc, ce sont des choses qui sont disponibles pour votre collection. D'un autre côté, actuellement, au moment où je réalise cette émission, Creepshow saison 1, Creepshow saison 2 et Creepshow saison 3 sont disponibles en DVD et en Blu-ray. Creepshow saison 4 a été mis sur le marché du côté nord-américain, mais ne semble pas encore être disponible ici au Canada, quelque chose qui devrait arriver sous peu.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it.
Ladies and gentlemen, our next attraction!
Coming soon to a theater near you.
Casino Royale is too much for one James Bond. Join the Casino Royale fun movement. Peter Sellers is James Bond. Ursula Andress is James Bond. David Niven is James Bond. Woody Allen is James Bond. Joanna Pettit is James Bond. Casino Royale is too much for one James Bond.
Any thug can kill. I want you to take your ego out of the equation.
While I understand 00s have a very short life expectancy.
C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night. As you leave the theater, folks, please be careful. Don't let this happen to your car. Be sure to remove the speaker before you leave. If you should accidentally pull a speaker loose, please turn it in at our snack bar or box office. Thank you.